20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. La nuit transfigurée, tel est le titre du nouvel album du trio Karénine qui vient de paraître chez Mirare. Un album saisissant d'émotions, de poésie et placé sous le signe de la transcription. Un album que nous évoquerons ce soir avec deux membres du trio, la pianiste Paloma Couidère et le violoncelliste Louis Rode. Nous retrouverons ensuite, comme tous les mardis, Thierry Ilerito du Figaro, qui cette semaine nous dressera le portrait du percussionniste Aurélien Gignoux, révélation artiste instrumental des Victoires de la Musique cette année. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Le festival Opéra en plein air vient de lancer une campagne de financement participatif afin de pouvoir monter la production de Madame Butterfly de Puccini, dont la tournée avait été annulée l'an dernier. 13 dates sont ainsi prévues entre le domaine de Sceaux, le château de Champs-sur-Marne, le château de Vincennes ou encore le festival de Carcassonne. Pour soutenir ce projet, rendez-vous sur le site KissKissBankBank. Un nouveau concert en ligne pour l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Ce samedi, c'est le jeune chef allemand Thomas Gugeis qui dirigera ses musiciens. Thomas Gugeis, ancien assistant de Daniel Barenboim, qui fait partie de ces nouvelles étoiles de la direction qui suscitent un véritable engouement sur les scènes internationales. Alors, il dirigera la musique de Wagner et celle de Richard Strauss, le prélude et la mort d'Isolde, mais aussi le poème symphonique Ainsi parlait Zarathoustra, un concert diffusé samedi à 18h en direct sur la page Facebook et sur le site YouTube de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Cecilia Bartoli, qui succédera en 2023 à Jean-Louis Grinda à la tête de l'Opéra de Monte-Carlo, s'est exprimée sur ses projets concernant l'institution monégasque. « J'aimerais inviter des artistes qui n'ont jamais eu la chance de s'y produire à venir y chanter. » C'est ainsi confiée la chanteuse dans un entretien à Euronews, ajoutant « Il y a aussi une porte qui peut s'ouvrir vers le monde baroque, mais aussi mozartien. » Des propos rapportés par Philippe Gau sur le site de Radio Classique.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est un programme envoûtant aux accents romantiques et narratifs que viennent de nous offrir les musiciens du trio Karénine chez Mirare, un album intitulé « La nuit transfigurée » qui emprunte son titre au célèbre sextuor de Schoenberg que l'on redécouvre ici dans une version pour trio. La musique de Schoenberg côtoie dans cet album celle de Liszt et de Schumann à travers le prisme de la transcription. Alors Paloma Couidère et Louis Rode, pianistes et violoncellistes du trio Karénine, nous éclairent ce soir sur leur démarche, sur la conception de ce programme.
Alors, il y a peut-être deux idées majeures qui se dégagent de ce programme. Premièrement, le thème de la transcription, en fait, qui est quand même particulièrement central à ce programme, puisque les trois œuvres que nous jouons sont des transcriptions pour trio avec piano d'œuvres pour des dispositifs différents. Donc, l'idée était de faire émerger une identité poétique et narrative sous le même dénominateur commun qui serait le trio avec piano pour pouvoir développer en fait une esthétique autour de cette musique germanique romantique et post-romantique.
Et dans cette envie de raconter des histoires, de nous plonger dans des univers dramatiques, Paloma.
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que les trois œuvres sont à la fois extrêmement liées. Louis a parlé de fil conducteur de la transcription, mais aussi littéraire, puisque dans le cas de La Nuit Transfigurée, donc l'œuvre s'inspire d'un poème extrêmement fort de Richard Demel. Liszt s'est beaucoup inspiré dans ses années de pèlerinage. Et donc de Tristia, de Sénancour, son Obermann, qui est une espèce de anti-héros romantique qui vit un ennui mortel et la seule chose qui le sauve, c'est la contemplation des montagnes suisses, en fait. Et puis Schumann, il a cette espèce en lui d'alter ego, en fait, de l'écrivain, quelque part. Voilà, donc effectivement, cette trame narrative est très forte. En même temps, et c'est ça qui fait aussi l'originalité du programme, on a cette œuvre, ce chef-d'œuvre qui dure presque une demi-heure de La Nuit Transfigurée. Et ensuite, on a ces courtes notations de Schumann, Six petits canons. Et puis, on a un poème beaucoup plus épique. Pour moi, finalement, même si La Nuit suit aussi la trame vraiment de manière très fine, du poème de Demel. Quelque part, Liszt, son œuvre ressemble plus à une fantaisie, avec vraiment un petit côté quand même aussi patchwork, où les tempi changent énormément.
Et d'ailleurs, ce côté extrêmement contrastant des différentes identités romantiques des œuvres de ce programme ont été au cœur de notre manière d'aborder le travail dans ce programme de disques. Parce que chez Schoenberg, on a un côté totalement paroxystique de l'expression romantique portée à son extrême, puisque ensuite, en fait, il ne pourra pas aller plus loin, puisqu'il va se diriger vers d'autres manières de toucher à l'émotion, en fait, que la mélodie romantique en tant que telle. On a ça d'un côté. De l'autre côté, on a un Schumann extrêmement intérieur qui va chercher du côté des inspirations de Bach et de ce côté très contrapuntique. L'émotion vient plutôt du fait qu'on a des éclairages harmoniques différents sur des mêmes motifs. Et puis, quant à Liszt, on a comme ça ces passages totalement déchaînés, et puis ces passages aussi très introspectifs. On a vraiment eu envie de jouer les contrastes, de jouer les paroxysmes dans ce programme.
Votre album Paloma Cuider et Louis Rod, nouvel album du trio Karénine, s'ouvre avec cette œuvre Tristia de Liszt, qui est donc une transcription pour trio d'une œuvre à l'origine écrite pour le piano, puisque la transcription c'est donc le thème de cet album. C'est une transcription de la Vallée d'Obermann. Liszt a changé le titre, ce qui veut dire qu'il écrit une nouvelle œuvre à part entière. On est au-delà de la transcription, Paloma.
Alors oui, c'est un des aspects qui nous a énormément plu, en fait, dans l'idée de faire ce disque, c'est que, en fait, on s'est vite rendu compte dans notre travail que non, la pièce de Schoenberg ne serait pas une forme de remaniement plus ou moins bien, en fait, de son sextuor. C'est vers autre chose que l'on se dirige et que l'on se concentre dans notre travail. Alors, dans le cas de Liszt, c'est lui-même qui, effectivement, a remanié sa propre œuvre. Donc, peut-être qu'on y allait avec encore plus de confiance. Mais effectivement, c'est le signe qu'on est presque dans une, pour reprendre le titre de Schoenberg, quelque part, dans une transfiguration, en fait, de l'œuvre. On en garde l'essence, mais on la porte différemment, et c'est là qu'on retrouve l'un des aspects les plus qu'on aime le plus dans notre travail, c'est-à-dire aussi le travail sur le timbre, exprimer l'émotion, c'est aussi ça, tout un travail sur le timbre.
Dans le cas de Liszt, il a même rajouté une introduction. Donc il y a quelque chose, et puis il y a plusieurs versions. Donc nous, on a tissé notre route à l'intérieur des différentes versions pour faire la nôtre, en fait. Et donc en fait, la trame musicale n'est pas exactement la même que celle de la Vallée d'Obermann originale. Dans ce Liszt, il y avait un travail exceptionnellement plaisant et puis valorisant aussi. C'était d'avoir accès à ces envolées listiennes avec un instrument à cordes, en fait. Mmh. On écoute cette Vallée d'Obermann comme quand on écoute certaines études de Chopin en se disant, mais ça, c'est un thème de violoncelle. Eh ben oui, justement, il l'a mis là. Il l'a mis là au violoncelle et ça sonne. C'est incroyable.
Est-ce que vous avez eu besoin, envie peut-être d'écouter ou de réécouter la version pour piano, ou au contraire d'en faire abstraction? Est-ce que vous la jouez d'ailleurs, Paloma?
Alors moi, je l'ai lu plusieurs fois, je ne l'ai jamais donné en concert. On a éprouvé le besoin, avant de l'enregistrer, de l'écouter par plusieurs interprètes différents. Et je dois dire que ça nous a fait beaucoup de bien, notamment dans l'appréhension des tempi, puisque malgré tout, je pense qu'on peut dire que parfois, la transcription, c'est là qu'on tend vers l'autre œuvre. Il y a des choses qu'il faut changer, même au niveau des tempi, pour que ça marche, en fait. Et donc, oui, on s'est inspiré aussi de versions, je pense à celle de Brendel, notamment. Il y a Rao aussi qui est magnifique. Enfin, de toute manière, c'est pas ça qui manque.
Donc, vous êtes à la fois dans la démarche de l'amplification sonore, lorsque vous jouez une version pour trio d'une œuvre pour piano, et dans une forme de réduction, comme c'est le cas, par exemple, avec Schoenberg. Vous passez du sextuor au trio. Le travail sur les couleurs, sur l'équilibre, est différent, Louis Rod, lorsque l'on veut élargir un espace sonore ou lorsqu'au contraire on va donner plus d'intimité à une œuvre qui est une dimension presque orchestrale, qui se joue d'ailleurs à l'orchestre aussi, le Schoenberg.
Je dois avouer que cette nuit transfigurée dans sa version pour trio avec piano est un véritable challenge, à la fois pour le piano qui doit assimiler en fait une partie assez démentielle, hein, au niveau de la virtuosité, c'est vraiment très impressionnant, et au niveau des cordes. Alors la partie de violon respecte quand même plus ou moins la partie de premier violon du sextuor. La partie de violoncelle navigue entre les différentes parties. Cette nuit transfigurée est un véritable challenge technique, peut-être encore plus en sextuor, mais tout simplement, le sextuor, il y a cette union, cette fraternité des timbres. On obtient en fait certaines colorations en laissant faire les instruments, alors qu'en trio, on doit aller vraiment chercher l'information pour trouver en fait à quel endroit de l'espace musical se placer pour pouvoir obtenir quelque chose qui sera satisfaisant du point de vue du langage musical, de la projection sonore. Et on ne pourra jamais atteindre le sextuor, c'est pas possible. C'est autre chose.
Vous nous offrez un nouvel éclairage de la nuit transfigurée de Schoenberg, Paloma Quider et Louis Rode, avec également Fanny Robillard. Nuit transfigurée de Schoenberg, qui donne son titre au nouvel album du trio Karénine. On évoquait avec vous tout à l'heure, Paloma, cette ambiance si particulière, si narrative, ce poème, ce thème très fort de la nuit transfigurée, l'histoire de ces deux amants qui se promènent une nuit et dont la femme apprend à l'homme qu'elle attend un enfant
qui
n'est pas de lui et l'acceptation de l'homme. C'est une histoire bouleversante, très forte, très sensuelle aussi. Quand on joue cette musique, on lit le poème, on se met dans une ambiance particulière. Comment ça se passe ?
Oui, bien sûr. Déjà parce que Schoenberg se fonde vraiment sur la trame, en fait. La nuit transfigurée tout entière, on peut dire, se promène entre les vers.
Il a lui-même commenté sa partition de façon très précise.
Exactement, et ça c'est une chose très, très précieuse pour nous. Après, je crois qu'il y a un moment, il faut se détacher, pour peut-être aussi mettre un petit peu les mains dans le cambouis, du texte, pour être vraiment dans la musique de Schoenberg. Mais effectivement, on est emprunt de toute cette atmosphère absolument magnifique. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Comme en plus c'est une transcription, on a vraiment, je pense, très fréquemment l'impression que l'œuvre nous dépasse. Effectivement, ça pourrait paraître être une réduction, une progression vers l'intimité, puisqu'on passe d'un sextuor à un trio. Le problème, c'est qu'en fait, on a un piano dans tout ça qui subitement apparaît. Et donc, l'union des vibratos, des archets, etc., là, ça n'est plus possible. Il y a cet élément un petit peu étranger qui arrive. Et donc, sans le gommer, puisque ça n'était pas notre parti pris, quelque part, c'est très difficile de retrouver ce sentiment de l'intimité. Donc, ce qui a dû se passer dans notre travail, c'est vraiment cette espèce de convergence vers une homogénéité la plus incroyable qui soit, sans prétention aucune.
Oui, mais c'est vraiment en se rapprochant au maximum d'une parfaite homogénéité.
Voilà, créer ces couleurs qui sont impalpables.
Voilà, et vous nous touchez profondément avec votre interprétation de cette nuit transfigurée de Schoenberg. Le nouvel album du trio Karénine qui vient de paraître chez Mirare. Quelques perspectives de concerts à venir en ligne, j'imagine, dans un premier temps. Rendez-vous à Corto dans quelques jours, Paloma.
Oui, tout à fait, le 15 mars. Alors, dans un programme qui sera tout à fait différent avec un trio de Haydn. Le très beau trio numéro 3 en fa mineur, opus 65.
Oui.
De Dvorak. Et pour finir, je ne sais pas si le concert sera vraiment dans cet ordre, mais une très belle pièce aussi, la Kammersonate de Enze, qui est très rarement jouée, qu'on aime beaucoup. Voilà. Et puis un autre concert.
Oui, nous jouons au festival de Pâques d'Aix-en-Provence, a priori au mois d'avril. On s'offre un programme génial avec Cette nuit transfigurée et le deuxième trio, opus 100 de Schubert.
Voilà, et un programme qui sera diffusé en ligne puisque le festival de Pâques d'Aix-en-Provence que Radio Classique fera vivre à l'antenne sera 100% voilà. En ligne et certains concerts sur notre antenne. Voilà donc ce merveilleux enregistrement, quelques rendez-vous à venir et on espère un futur qui s'éclaircira pour vous et pour tous les artistes et un futur amené à quelques bouleversements dont vous nous annoncerez dans quelques jours les tenants puisque
Absolument.
L'aventure du trio Karénine se poursuit, peut-être avec quelques petits changements. Rendez-vous dans une dizaine de jours pour ces informations. En attendant, on se régale avec cet album. Il vient de paraître sous le label Mirare. Merci beaucoup, Paloma Quider et Louis Rode, d'avoir passé un moment avec nous.
Merci.
Merci beaucoup, Laure. Thank you.
L'une des études en forme de canon de Schumann dans une transcription pour trio avec piano, un nouvel extrait de ce superbe album La Nuit Transfigurée du trio Karénine, album tout juste sorti sous le label Mirare.
Nouvelle génération de Thierry Lhériteau avec le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, vous revenez sur un instrument qui a le vent en poupe, comme en témoigne le palmarès des dernières victoires de la musique classique, c'est la percussion.
Et oui, on peut même parler de famille instrumentale, puisque les percussions, rappelons-le, c'est le groupe qui offre dans l'orchestre le plus de possibilités. Impossible de chiffrer le nombre d'instruments à disposition, disent les interprètes. On parlerait, accrochez-vous bien, de 500 à 600 spécimens, et cela va des claviers aux pots accordés, en passant par les métaux et naturellement, ces instruments dits auxiliaires, chers aux compositeurs d'aujourd'hui, on peut citer à titre d'exemple tous les instruments issus des cultures populaires, comme le tambour basque, mais aussi les objets détournés du quotidien qui nous rappellent encore, au détour de quelques expérimentations sonores hasardeuses, que des batteries de cuisine eh bien, portent toujours aussi bien leur nom. Pas de casserole en vue la semaine dernière lors de la cérémonie des victoires de la musique classique, mais un jeune percussionniste qui, derrière son marimba et son vibraphone, est venu faire démentir cette idée reçue selon laquelle les percussions seraient destinées au seul rang du fond des orchestres. Aurélien Gignoux, il a 23 ans et ce jeune Toulousain a décroché la précieuse timbale, la victoire de la révélation comme soliste instrumental. Un sésame en forme de consécration donc pour les percussions, puisqu'il arrive seulement 4 ans après la victoire de sa jeune consœur Adélaïde Ferrière. Souvenez-vous, c'était en 2017. Elle était alors la première percussionniste à être couronnée au titre des révélations par les victoires.
Adélaïde Ferrière, qu'Aurélien Gignoux connaît bien d'ailleurs.
Et en effet, les deux jeunes musiciens, figurez-vous, se côtoient au sein du même trio, le trio KDM, dont ils ont repris le flambeau récemment et qu'ils forment avec l'accordéoniste Anthony Millet, avec une volonté, être un fer de lance de la création contemporaine par une politique de commande soutenue, travailler au plus près du compositeur. C'est d'ailleurs, de son propre aveu, l'une des grandes satisfactions d'Aurélien en tant que percussionniste, ce qui ne l'empêche pas, rassurez-vous, de revisiter avec un plaisir tout aussi infini les grandes pages du répertoire, y compris orchestral, cherchant des combinaisons de timbres et de sonorités qui répondent au mieux à l'imaginaire du compositeur.
Alors il faut dire, Thierry, que le monde de l'orchestre lui est particulièrement familier.
C'est même le moins qu'on puisse dire. Laure, Aurélien a grandi dans une famille de musiciens. Son père est oboïste, sa mère flûtiste. Tous les deux se sont rencontrés sur les bancs de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Et c'est en entendant l'orchestre dès son plus jeune âge qu'Aurélien a eu le coup de cœur pour la percussion. Un coup de foudre qu'il ne s'explique pas. Cela s'est fait sans réfléchir, dit-il. J'ai tout de suite été fasciné par l'énergie qui se dégageait de ses instruments et par la place de deuxième chef que semble tenir le percussionniste. Dès lors, cette passion ne le quitte plus. Batterie, piano, vibraphone, jazz. Au Conservatoire de Toulouse, Aurélien veut aborder de front tous les styles et tous les genres, y compris bien sûr l'improvisation, son autre grande passion. Un appétit qui le mènera jusqu'au CNSM de Paris dans la classe de Gilles Durau, de l'ensemble intercontemporain, mais aussi à la Haute École de Musique de Munich, où il remporte en 2019 le deuxième prix lors de l'épreuve de percu du prestigieux concours de l'ARD. Dès lors, sa carrière est lancée. Sa victoire mercredi dernier devrait être, pour celui qui termine actuellement son master au CNSM, un tremplin salvateur, lui permettant d'envisager une carrière soliste en dehors de l'orchestre.
Quelques notes de Ravel, L'Aidronette, impératrice des pagodes, tirée de Ma mère loi, jouée au marimba et au vibraphone, par Aurélien Gignou, dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine. Thierry, merci beaucoup.
Merci, Laure.
Et à la semaine prochaine. Quant à nous, demain, nous serons avec Édouard Fouré-Colfuti, le délégué artistique de l'Orchestre de Paris, qui nous parlera des nouveaux enjeux de l'orchestre en cette période si particulière que la vie musicale traverse en ce moment. Merci beaucoup à Yann Lovray pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous. Je vous laisse en compagnie de Francis Drezel.